Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nous sortons à peine d'un très impressionnant enchaînement d'événements musicaux entre le 26 mars et ce 1er avril. Il y en a d'ailleurs un qui est toujours en cours puisque les représentations de Norma, l'opéra de Bellini, se poursuivent au Théâtre du Capitole jusqu'au 6 avril. L'une des périodes les plus chargées de la saison est donc passée, mais l'agenda des jours à venir est encore très bien rempli. Comme vous allez pouvoir le constater, je suis donc bien content pour vous le présenter de retrouver l'ami Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Serge et moi, nous avons un invité, le compositeur et claveciniste William Maurer, fondateur et directeur artistique d'un ensemble qui porte son nom. L'ensemble William Maurer est en concert à 20h30, samedi 5 avril à Toulouse, à l'église Saint-Pierre des Chartreux. Pour en savoir plus sur le programme de cette soirée, il va falloir attendre la seconde partie de l'émission. En attendant, nous allons revenir sur la fort copieuse actualité musicale récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue Serge et bienvenue William Maurer que nous recevons pour la deuxième fois à Mélomanie. Premier retour sur l'actualité musicale des derniers jours avec un concert donné le 26 mars à la Halle au Grain. C'était un rendez-vous du cycle Les Grands Interprètes qui accueillait l'orchestre de chambre d'Europe et le pianiste sud-coréen Sun Wook Kim, celui-ci ayant choisi de s'attaquer le même soir au concerto numéro 3, numéro 4 et numéro 5 de Beethoven, autant dire à une sorte de marathon du clavier. Le défi était redoutable. Comment s'en est-il tiré, Serge ?
Eh bien, ma foi, il s'en est tiré avec plus que les honneurs, il s'en est tiré de manière incroyable, avec une énergie qu'il a développée tout au long de ces trois concertos, de manière impressionnante. Hein. Exécution passionnée, intense, donc, de ces trois concertos. Alors, évidemment, il dirige l'orchestre, le Chamber Orchestra of Europe, depuis le clavier, et il le dirige avec une fusion incroyable entre le piano et l'orchestre. C'est vraiment une performance qui n'est pas si fréquente, hein,
je crois. C'est le moins qu'on puisse dire.
Et donc, il a su maintenir une tension constante, permanente, à travers ses choix de tempi, l'équilibre sonore et les nuances. Alors, il faut saluer cette manière de communiquer avec l'orchestre, à la fois du geste, du regard et du langage corporel. Donc, il y avait tout ça qui fonctionnait parfaitement dans un orchestre dont la disposition instrumentale n'était pas ce soir-là la disposition habituelle des orchestres français. Alors elle s'inspire plutôt des phalanges de l'Est de l'Europe avec les premiers violons à gauche comme d'habitude, mais les deuxièmes violons à droite, les altos au centre droit, les violoncelles au centre gauche et les contrebasses à gauche. Donc c'est très différent de nos dispositions habituelles, notamment de l'Orchestre National du Capitole. Alors, le concerto numéro 3 s'est ouvert avec cet allegro con brio à la fois inquiet et fébrile, et puis un piano à la fois volontaire et virtuose. Et là, moi, j'ai beaucoup admiré la cadence flamboyante qu'il a jouée à la fin de ce mouvement. Le largo, c'était une sorte de méditation. Et le rondo final, alors une libération dans laquelle le piano joue vraiment un rôle conquérant. Et puis le concerto numéro 4, pour ma part, c'est mon préféré. C'est le concerto peut-être le plus novateur ou le plus inventif des 5, en particulier pour l'Andante con moto, qui représente vraiment un des sommets expressifs de toute la littérature concertante. Hein. On sait que Franz Liszt le considérait comme le dialogue d'Orphée avec les puissances infernales. Là, vraiment, les interprètes manifestaient une intensité impressionnante. Vraiment, ça a été l'un des grands moments de la soirée. Et puis, le rondo final, c'était la joie, avec un jeu pianistique incisif, vraiment, de la part du soliste. Enfin, le dernier des concertos, le 5, qui était donné après un entracte tout de même, l'Empereur, donc, nom qui n'est pas du tout de Beethoven, qui a été donné après sa mort. Et il faut se souvenir quand même, les conditions de création, de composition et de création de ce concerto étaient particulières, puisque la grande armée de Napoléon bombardait Vienne à ce moment-là et perturbait considérablement Beethoven lui-même. Là aussi, très beau, impérial, on peut le dire, l'entrée du piano après les deux premiers tutti orchestraux, et puis un adagio vraiment sublime, à la fois habité par les interprètes, aussi bien l'orchestre que le piano, et donc un rondo final, alors véritablement explosif cette fois. C'était vraiment stupéfiant. Alors, il faut vraiment saluer l'énergie et cette profonde relation entre le soliste et l'orchestre. Ils ont été extrêmement applaudis, rappelés à de multiples reprises. On sent que le public aurait voulu un bis, mais tout de même, n'exagérons pas.
Lui en demandait beaucoup. Là.
Ah oui, là, vraiment. Donc, on comprend ce nouveau Kim d'avoir finalement arrêté le concert à la fin du cinquième concerto. Donc, un moment impressionnant.
Pour vous faire réentendre Sun Woo Kim dans un des trois concertos de Beethoven qu'il a joué mercredi dernier à la Halle au Grain, j'ai choisi un extrait du numéro 3 et de son troisième mouvement Rondo Allegro. C'est une version dirigée par Nathalie Stutzmann. Sun Woo Kim jouait le troisième mouvement Rondo Allegro du concerto pour piano numéro 3 de Beethoven dans cette version dirigée par Nathalie Stutzmann. Notez que le prochain concert du cycle des grands interprètes est programmé le mardi 29 avril à 20h, toujours à la Halle au Grain bien sûr, et c'est notre cher pianiste toulousain Bertrand Chamaillou qui va s'y produire. Vendredi dernier, le 28 mars, l'Orchestre National du Capitole était de retour en grand effectif à la Halle au Grain après sa tournée en Allemagne. Un autre retour avait lieu ce soir-là, celui du violoncelliste Jean-Guillain Queyras à Toulouse. On ne l'avait pas entendu depuis au moins 7 ans. Nous avons assisté tous les deux à ce concert, Serge. Mais avant d'en parler, il faut rappeler qu'il y avait eu un changement par rapport au programme annoncé. Changement imposé par le remplacement du chef invité prévu initialement.
Oui, et qui, pour des problèmes de santé, a dû annuler. Et donc, il a été remplacé par le chef suisse Thierry Fischer, qui est à la fois flûtiste et chef d'orchestre. Et donc, le programme a été modifié. Il comprenait l'ouverture de la Clémence de Titus de Mozart, le concerto pour violoncelle et orchestre de Schumann, et toujours, ça c'était prévu, la 8e symphonie de Beethoven. Et là aussi, on a pu observer un petit changement dans la disposition des cordes, avec de nouveau les premiers violons à gauche et les seconds violons à droite, en écho en quelque sorte. Voilà. Et donc Thierry Fischer a dirigé ce concert avec beaucoup d'énergie, avec notamment une ouverture de la Clémence de Titus pleine de passion, hein, en quelque sorte. Et puis, on a vu arriver, donc, le grand violoncelliste Jean-Guillain Queyras, qui a fait des choses magnifiques dans cet unique concerto pour violoncelle de Schumann. Vraiment, l'une, quand même, des partitions emblématiques de ce répertoire. Hein. Ce qui a d'abord ravi, c'est la qualité de sa sonorité. À la fois riche, ample, d'une belle rondeur. Et puis, son jeu très contrôlé, il contrôle le vibrato, c'est pas du vibrato permanent. Donc il fait ça avec une grande finesse. Le vibrato est presque une ornementation pour
lui. Oui, c'est un jeu très nuancé.
Ah, c'est très beau.
À la fois très brillant, mais très nuancé.
Ah oui. Avec, dans le premier mouvement, une éloquence magnifique. Vraiment, il suit à la lettre les indications de Schumann, qui dit là, nicht zu schnell, pas trop rapide. Donc, vraiment un très beau moment, avec notamment dans le mouvement lent, langsam d'ailleurs. Là, on a assisté à un touchant duo entre le violoncelle soliste et le premier violoncelle de l'orchestre, qui était ici, l'excellente Sarah Yansou, on la connaît bien, à Toulouse évidemment, et avec des regards qu'ils échangeaient pendant ce duo, c'était vraiment très touchant. Et puis le concerto s'est achevé de manière très joyeuse, jusqu'à cette coda virtuose que le soliste a vraiment fait briller de mille feux. Et donc ça a été une ovation unanime, vraiment, hein, qui a accueilli cette interprétation. Alors il s'est déplacé, il est allé voir Sarah Yansou, il est allé l'embrasser pour la remercier de sa participation à ce duo du deuxième mouvement. Et ensuite il a offert un bis vraiment plein de signification. Il a joué le prélude de la suite numéro 4 pour violoncelle seul de Bach, mais qu'il a précédé d'une mélodie populaire ukrainienne. On voit pourquoi il l'a fait, et ça a été très apprécié par le public, qui a vraiment applaudi très fortement cette initiative. La seconde partie de la soirée, elle était consacrée à la symphonie numéro 8. Alors, on sait que comme la plupart des symphonies pères, à l'exception de la pastorale, elle n'est que très rarement jouée. Hein.
On se demande un peu pourquoi.
Mais oui, bon. La 2, la 4, la 8, on les entend pas
elle
souvent.
Elle est très belle cette 8 pourtant.
Mais oui, magnifique.
Elle est très guillerette en plus.
Ah oui, absolument. Donc, et là, vraiment, le chef en a donné une vision particulièrement vive et dynamique, avec un allegro, un premier mouvement très vif, très dynamique et très... très passionné même, et un deuxième volet, Allegretto scherzando. Alors vous savez que ce deuxième mouvement est plein d'ironie, puisque c'est par ce mouvement que Beethoven souhaitait un bon anniversaire à son ami Nepomuk Meltzer, qui est l'inventeur du métronome. Donc là, il a été dirigé vraiment avec cette espèce d'humour particulier. Et puis enfin, le tempo diminuetto qui alterne avec une belle participation du pupitre de cor, hein, qui a été d'ailleurs très félicité à la fin par le chef. Et puis là, le final avec une vitalité rythmique impressionnante, cet allegro vivace dont il a avivé un peu les arêtes. Hein, et donc, elle prenait un peu un caractère de divertissement comme l'ensemble de l'œuvre. Et la soirée s'est achevée dans une sorte d'atmosphère de fête.
Oui, alors la direction de Thierry Fischer qu'on découvrait.
Oui, absolument.
Quelqu'un m'a dit qu'il aurait, paraît-il, déjà dirigé à Toulouse il y a longtemps.
Oui, en 2006.
Ça. Oui, en 2006.
Oui, voilà. Oui.
Et sa direction est assez,
assez
étrange,
parce que
par moments, il y a pléthore de gestes et d'indications,
exactement.
Et puis d'un coup, il n'y a plus rien.
Oui.
Je ne sais pas comment le vivent les musiciens. Je pense que ça doit en désorienter certains. Moi, personnellement, j'ai apprécié la restitution.
Oui,
c'est toujours pareil, la part qui revient aux musiciens dans tout ça et aux directeurs d'orchestre, il n'y a que qui peuvent répondre. On va avoir le plaisir d'entendre une nouvelle fois le son magnifique du violoncelle de Jean-Guilain Queyras en l'écoutant dans le prélude de la suite numéro 4 de Jean-Sébastien Bach, le bis qu'il a joué vendredi dernier à la Halograin. Thank you. Le prélude de la suite numéro 4 pour violoncelle seule BWV 1010 de Jean-Sébastien Bach, le bis joué par Jean-Guilain Queyras vendredi dernier à la Halle au Grain où l'Orchestre National du Capitole se produit de nouveau ce vendredi 4 avril à 20h sous la direction de Maxime Emelianichev, un concert que nous allons vous présenter en seconde partie de cette émission. Je voulais dire quelques mots sur les concerts donnés à 15h et 20h, samedi 29 à Saint-Pierre-des-Cuisines, par l'orchestre du Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, sous la baguette de Christophe Millet, le directeur de l'établissement. Nous l'avions reçu à Mélomanie il y a 2 semaines. La violoniste Manon Galli, ancienne pensionnaire du Conservatoire toulousain, était la soliste de cet événement, lors duquel elle a joué le si beau, le très beau concerto de Sibelius. Je crois d'ailleurs que c'était la première fois pour elle en concert. Le prélude d'Attila, l'opéra de Verdi, ouvrait le programme et la symphonie numéro 6, la pathétique de Tchaïkovski, le concluait, excusez du peu tout de même, hein, 3 très belles œuvres dont 2 sont vraiment de gros morceaux, surtout pour un orchestre formé par 70 à 80 grands étudiants du conservatoire qui se produisent ensemble à plus ou moins 2 reprises, je crois, dans l'année. Alors pour ma part, j'ai assisté au premier concert, celui de 15h, dans un auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines archi-comble et qui a même refusé du monde. Il faut dire que l'entrée était libre dans la mesure des places disponibles. Et vous imaginez bien qu'avec près de 80 étudiants sur scène, entre les parents, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes et les amis, on a vite fait de remplir une salle de 400 places, sachant que nombre de leurs professeurs étaient aussi présents, professeurs d'instruments à cordes, de cuivre, de vent, de percussions. Tout n'a pas été parfait, bien sûr. Lors de ce concert de l'après-midi, il y a eu notamment un petit décalage à un moment donné de la part d'un pupitre qui a anticipé le mouvement du chef, comme ça peut arriver parfois, surtout lorsque le stress est élevé, dans un orchestre qui, je le rappelle encore, n'est pas constitué de musiciens habitués à jouer ensemble depuis des années. Tout ça est rapidement rentré dans l'ordre, grâce à l'expérience de Christophe Millet qui a su ne pas montrer sa frustration et son dépit à ses troupes. On m'a rapporté que tout s'était en revanche très bien passé lors du concert du soir. Je préfère donc retenir tous les beaux moments que nous ont offert l'orchestre du conservatoire et Manon Galli durant ce programme. Et ils ont été nombreux. Il y a vraiment du talent et des talents dans la jeunesse musicale toulousaine. Et je suis certain que beaucoup de ces étudiants sont promis à de belles carrières et suivront le chemin tracé par leurs aînés, à l'instar d'une Manon Galli par exemple. C'est elle que je vous propose d'écouter maintenant pour illustrer le programme du 29 mars à Saint-Pierre-des-Cuisines. En outre des 3 œuvres que j'ai citées, nous avons pu y entendre aussi 2 bis, la valse de Mascarade, cette musique de scène composée par Aram Khatchatourian que les jeunes musiciens du conservatoire ont joué de manière très enlevée en conclusion de concert. Avant cela, Manon Galli avait également donné un bis en solo. Elle a joué l'adagio de la sonate numéro 1 pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. On l'écoute sous l'archet de la jeune violoniste toulousaine.
Thank you.
L'adagio de la sonate numéro 1 pour violon seul de Jean-Sébastien Bach, interprété par Manon Galli, la pièce qu'elle a jouée en bis avec la même maîtrise lors des concerts de l'orchestre du Conservatoire de Toulouse samedi dernier à Saint-Pierre-des-Cuisines. Ce fut un beau et bon moment, très émouvant aussi, que de voir tous ces jeunes musiciens à l'œuvre. La relève est assurée, soyez-en sûrs, nous allons changer complètement de registre maintenant avec un spectacle musical inspiré de la vie et de l'œuvre d'Éric Satie, auquel nous avons là encore assisté tous les deux, Serge, le soir de ce même samedi 29 mars. C'était au Théâtre du Pavé. Il a pour titre « Piano en forme de poire » et c'est une création de l'ensemble À bout de souffle, cofondé et co-dirigé par le pianiste Stéphane Delinca. Stéphane Delinca était sur scène aux côtés d'un autre pianiste et d'une comédienne. Je vais vous laisser nous indiquer leur nom et nous dire ce que vous avez pensé de ce spectacle dédié au plus fantasque, au plus loufoque des compositeurs français.
Oui, complètement. Alors c'est un spectacle qui a vraiment rendu compte de la dichotomie qu'il y a dans le personnage d'Éric Satie, entre sa musique poétique, simple, imaginative, et puis alors ces aphorismes complètement fous que l'on peut détecter à la fois sur les partitions ou dans les titres carrément de ses œuvres. L'autre pianiste était aussi un Stéphane, c'était Stéphane Escoubé, et la metteuse en scène, c'était la comédienne Muriel Benazeraf, qui en quelque sorte incarnait le personnage d'Éric Satie et d'autres personnages, et elle changeait de chapeau quand elle changeait de personnage, donc c'était très amusant, très bien fait. On a vraiment eu les deux aspects d'Éric Satie, avec cet humour particulier qui le caractérise. Et la partie musicale donc s'ouvrait justement sur la version à quatre mains des trois morceaux en forme de poire, d'où le titre du spectacle, hein, Piano en forme de poire. Ces morceaux en forme de poire ont été composés donc par Éric Satie à la suite du reproche qu'on lui avait fait que sa musique manquait de forme.
Et sa musique était informe.
Voilà. Donc, il lui a donné la forme de poire. Et puis, on suivit des partitions au titre vraiment complètement délirant, en particulier les véritables préludes flasques pour un chien, ou encore les embryons desséchés. Ça donnait vraiment le ton.
Et c'est pas pour rien qu'il était ami avec les surréalistes.
Hein. Ah oui, 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 exactement. Alors, on a eu droit quand même à des extraits des gymnopédies lignosiennes. Ça, c'est très, très connu. Ce sont les de cycles les plus joués, et alors avec beaucoup de finesse et de musicalité par les deux pianistes, hein, qui ont quand même réalisé des performances en particulier au sein d'une même œuvre. Ils se succédaient furtivement devant l'unique clavier sans interrompre le cours de la même pièce. Ça, c'était incroyable. Ils ont même mêlé leurs voix dans quelques mélodies célèbres comme « Je te veux » et puis ils ont joué Piccadilly, La Belle Excentrique, etc. Muriel Benazeraf a même indiqué quelques-uns des conseils d'interprétation que donnait dans ses partitions Éric Satie. En particulier, elle a bien repris l'expression où il dit « enfouissez le son ». Alors, on ne sait pas trop comment traduire ça. Et puis, il y en a d'autres comme « Munissez-vous de clairvoyance », puis « À seul pendant un instant » ou « De manière à obtenir un creux ». Alors, si un auditeur sait comment traduire ça musicalement, eh ben, qu'il nous le fasse dire, c'est impressionnant. Alors, il y a eu des petits gags incroyables, avec notamment un concours de mélodies précisément enfouies dans des pièces jouées par les musiciens. Et il y avait par exemple « Ah, le petit vin blanc », ou l'international.
Il fallait reconnaître.
Et à la fin, donc, la comédienne a mentionné la relation intime, la seule d'ailleurs connue du musicien avec l'artiste peintre Suzanne Valadon.
Relation,
triste période.
Tragique et tumultueuse.
Tragique, oui,
et courte, et qui fut courte. Voilà. Heureusement, pourrait-on dire.
Oui, oui, oui. Oui. Et puis... Et
noyé dans l'absinthe.
Oui, oui. Ah oui, exactement. Et puis, elle a évoqué les derniers moments de sa vie, et en particulier les ahurissantes archives qu'il a laissées dans sa maison d'Arcueil, avec notamment...
Et l'état dans lequel il avait laissé...
une pile de costumes identiques et 14 parapluies identiques également, oui, qu'il avait laissées. Donc, un personnage hors norme.
Oui, ils n'ont pas éludé les côtés sombres de Satie.
Non, exactement.
D'ailleurs, ce spectacle aurait très bien pu s'appeler... Enfin, on aurait pu lui donner un titre balzacien, « Splendeur et misère » d'Éric Satie.
Oui,
ça aurait très bien aussi,
je
pense, exprimé ce qu'était ce... ce personnage fascinant par bien des côtés. Oui. Et parmi les pièces célèbres d'Éric Satie que l'on a pu entendre au Théâtre du Pavé sous les doigts de Stéphane Delinca et Stéphane Escoubet, il y en a une que vous avez citée, cette chanson charmante « Je te veux » que nous écoutons maintenant dans une version chantée par une Toulousaine, Maddy Mesplé, accompagnée au piano par Aldo Ciccolini. Je te veux, chanson d'Éric Satie, composée sur des paroles d'Henri Pacori, chantée par Maddy Mesplet, accompagnée au piano par Aldo Ciccolini. Nous retournons à Saint-Pierre-des-Cuisines pour l'avant-dernier concert de la saison 24-25 de Toulouse Guitare, qui avait invité ce dimanche 30 mars le duo explosif formé par l'Italien Agnello Desiderio et le Croate Zoran Dukic, deux poids lourds. À tout point de vue, de la scène de la guitare classique internationale, leur concert a été précédé, comme le veut la tradition instaurée par Thibaut Garcia, par une première partie assurée par un jeune guitariste issu de la formation musicale toulousaine, donc du conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Cette Aimé Vu, qui a eu l'honneur cette fois-ci de se produire avant le tandem que tout le monde attendait. Il est originaire de Carcassonne, il a 24 ans et il est étudiant au CNSM de Paris depuis quelques années. Nous l'avions déjà entendu en 2021 à Toulouse Guitare. Je ne sais pas si vous vous en souvenez,
oui,
Serge.
Oui, absolument.
Et nous étions évidemment curieux de voir comment son jeu avait évolué depuis. Eh bien, il est clairement devenu un excellent guitariste, alliant aisance technique et musicalité avec un sens des nuances très développé. Aimé Vu a proposé un programme qui n'avait rien de facile, en enchaînant des pièces de Vicente Asensio, un compositeur espagnol du XXe siècle, de Karel Arnoldus Krajnwanger, compositeur hollandais du XIXe siècle, et enfin d'Astor Piazzolla, évidemment le plus connu des trois. Très belle et solide prestation du jeune guitariste qui a recueilli de vives acclamations du public. On peut parier qu'on reverra Aimé Vu dans quelques années à Toulouse Guitare, peut-être en première partie. On verra bien. Agnello Desiderio et Zoran Dukic ont pris ensuite possession du vaste plateau de Saint-Pierre-des-Cuisines. Et c'est le Croate qui a présenté toutes les œuvres de leur programme. Il a dit d'abord quelques mots en français, très peu, avant de demander au public s'il préférait qu'il s'exprime en espagnol ou en anglais. Les deux langues qu'il maîtrise le mieux en dehors de sa langue serbo-croate natale. Finalement, c'est en espagnol qu'il a présenté chaque pièce, toujours avec une petite pointe d'humour et une extrême décontraction. Les deux musiciens sont très complices. On voit qu'ils jouent sans le moindre stress visible, en tout cas c'est l'impression qu'ils donnent. Aimé Vu avait terminé sa première partie avec Piazzolla, et c'est aussi avec des pièces du compositeur argentin que le duo Desiderio-Dukic a ouvert son concert. Trois mouvements de la suite Trogliana, Zita, Whisky et Escolasso se sont ainsi enchaînés. Ensuite, c'est Albéniz qui a été à l'honneur avec ses pièces Mallorca et Rumores de la Caleta. Nous sommes restés en Espagne après lorsqu'ils ont joué Oriental, une jolie pièce d'Enrique Granados, interprétée, je dois dire, avec beaucoup de sensibilité et d'émotion, au point que j'ai entendu quelques pleurs dans la salle. Il y a un autre Espagnol, Joaquín Rodrigo, qui était aussi invité à la fête par le biais de Tonadilla, une œuvre originellement écrite dès la base pour deux guitares. Et puis enfin, c'est le Brésilien Sergio Assad qui a conclu le programme. Agnello Desiderio et Zoran Dukic ont joué sa pièce Taïlla di Ossulina. Je ne sais pas ce qui est le plus impressionnant dans la prestation, le jeu de ces deux formidables musiciens. Il y a un volume de son, mais vraiment d'une densité incroyable. Et puis il y a des moments de poésie pure qu'ils sont capables de produire, sans parler de leur incroyable virtuosité et de leur aisance technique. En la regardant, on a le sentiment que rien n'est plus facile que de jouer de la guitare. Ben essayez, vous verrez. Ils ont eu un immense succès et bien sûr, ils sont revenus jouer plusieurs bis, dont un extrait de la Cocktail List. Cette œuvre commandée au compositeur gallois Stephen Goss, dont chaque morceau porte un nom de cocktail. Et enfin, ils ont terminé avec l'inattendu Hot Swing de Django Reinhardt pour conclure donc ce concert mémorable. J'ai l'embarras du choix pour vous faire découvrir l'extraordinaire duo Desiderio Dukic dans un extrait du programme de ce concert. J'ai retenu la pièce qui a sans doute le plus ému le public de Saint-Pierre-des-Cuisines dimanche, Oriental d'Enrique Granados. Thank you. Oriental d'Enrique Granados, joué par Agnello Desiderio et Zoran Dukic pour terminer cette première partie d'émission. Petite virgule musicale avant l'agenda de Mélomanie dans quelques instants, en compagnie de Serge Chosy et de William Maurer. Notre invité du jour, restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Agenda que nous allons donc ouvrir avec William Maurer. Je rappelle que vous êtes claveciniste, compositeur et même écrivain. L'ensemble que vous avez fondé, l'ensemble William Maurer, est en concert à Toulouse ce samedi 5 avril à 20h30 à l'église Saint-Pierre des Chartreux. Vous allez nous présenter le programme de la soirée, mais tout d'abord quelques précisions concernant votre ensemble qui est de création récente. Qui sont les musiciens qu'ils composent et quel répertoire abordez-vous avec eux ?
Alors oui, donc l'ensemble William Maurer est un ensemble qui a été fondé très exactement en octobre 2023. C'est à la fois un ensemble musical, vocal instrumental, mais c'est aussi une compagnie théâtrale. Et concernant donc l'ensemble musical, il est constitué en grande partie donc de musiciens professionnels ou semi-professionnels ayant fait leurs études au conservatoire. Pour la grande majorité d'entre eux.
Alice Date aussi pour certains.
D'autres ont même fait les deux et ont terminé leur parcours et sont déjà des professionnels. Donc c'est une formation assez hétérogène, mais pas tant que cela finalement, qui réunit des gens qui sont à différents niveaux de leur parcours, mais ça permet justement à certains d'en apprendre avec la compagnie des autres.
Alors vous êtes vous-même, je ne l'ai pas dit, un ancien élève du conservatoire à rayonnement régional de Toulouse.
Tout à fait.
Quels sont ceux qu'on va entendre cette fois-ci ? Alors, il y aura un chœur mixte.
Oui, un chœur mixte à 8 voix, dont deux solistes, Timothée Bougon, que je salue, et Katharina Mangan, qui est à la fois donc, la soprano 1 de l'ensemble, mais également la secrétaire de l'ensemble, toujours très énergique et très investie, et que je salue fort chaleureusement.
Donc, le chœur mixte, deux solistes, un ténor et une soprano, et puis il y aura un organiste.
Oui, Eliott Berkoff, organiste qui est également élève au Conservatoire de Toulouse, et donc qui va jouer quelques pièces pour orgue seul, mais également quelques-unes de mes transcriptions.
Alors ça, on va l'aborder un peu plus tard. Il y a aussi quelqu'un qui va diriger l'orgue, et c'est pas vous qui allez diriger l'ensemble. C'est Mathieu Pointeau, que moi je connais comme corniste. Alors je ne savais pas qui s'était mis à la direction.
Alors il a également suivi la formation de direction d'orchestre.
Alice Date, je crois.
Oui, et au Conservatoire de Toulouse. C'est une personne avec qui j'éprouve un grand plaisir à travailler, d'autant plus que je n'ai pas suivi de formation en direction d'orchestre, un petit peu en direction de chœur, mais étant donné que j'ai déjà, on va dire, la charge d'organiser les événements et ainsi que le volet de la composition, je me suis dit que je pouvais légitimement déléguer la direction à quelqu'un qui a suivi la formation, donc qui est d'autant plus légitime et qui est beaucoup plus passionné que moi par la question.
Vos compositions, il va y en avoir plusieurs lors de ce concert, mais je voudrais savoir quelles sont vos influences, vos références en tant que compositeur.
Alors, je vous dirais qu'elles sont nombreuses, qu'elles se sont étoffées au fil de ma formation. Je suis arrivé à la musique savante par Jean-Sébastien Bach, ce qui n'étonnera pas grand monde.
C'est pas mal
finalement.
Comme canal, hein, c'est pas mal, je trouve. Hein.
Oui,
un Serge.
C'est une bonne idée.
Effectivement, et c'est vrai qu'au fil donc de ma formation et de mes études au conservatoire, j'ai eu un goût de plus en plus prononcé pour les musiques plus tardives, classiques, romantiques, modernes et même contemporaines. Et donc je ne me prive pas d'avoir plusieurs influences, certes anciennes avec Jean-Sébastien Bach, Jean-Philippe Rameau, mais aussi plus modernes avec Duruflet et Messiaen. Donc le panel est large.
C'est pas mal aussi comme influence,
ah, oui,
en tout cas pour la musique
vraiment,
hein. Contemporaine, n'est-ce pas, Serge ?
N'est-ce pas ?
Oui.
Une chose aussi, il me semble que votre terrain de prédilection, c'est le sacré, en tout cas pour l'instant.
Effectivement, je pense que cela est dû à plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est par le truchement des grandes œuvres sacrées que j'en suis venu à la musique savante, que ce soit le Requiem de Mozart, la messe en si de Bach. Donc il y a cette première raison, et c'est aussi dû à une passion particulière pour tout ce que cette musique peut apporter en termes d'élévation,
de spiritualité
et aussi de sublime.
On sera bien d'accord avec vous sur ces trois points. Alors pour faire découvrir vos compositions à nos auditeurs, nous allons écouter l'une de celles qui sera jouée samedi à l'église Saint-Pierre des Chartreux. C'est un Agnus Dei.
Thank you.
Agnus Dei, composition de William Maurer, qui est donc au programme du concert de samedi à l'église Saint-Pierre des Chartreux. On a reconnu la voix de Timothée Bougon au passage. Quelles autres œuvres va-t-on aussi entendre lors de cette soirée, William ?
Donc c'est un programme assez éclectique, mais qui garde quand même une certaine cohérence puisque l'on reste en France. Bien que l'on se permette un voyage temporel, hein, on part de Claude le Jeune,
Revoici venir du printemps, hein.
Donc 16e siècle, jusqu'au 21e siècle puisqu'il y a mes compositions, en passant par François Couperin, Jean-Philippe Rameau, Camille Saint-Saëns et Gabriel Fauré. Donc le voyage temporel est assez étendu.
Sur 5 siècles.
Ouais.
Avec
c'est raisonnable.
Quelques jolies balises au passage, tout de même.
Ah oui.
Parce qu'on va avoir les barricades mystérieuses de Couperin. Vous avez fait l'arrangement pour chœur.
Pour chœur mix, oui.
Alors, ça sera aussi quand même une découverte. Hein. Et puis, on aura aussi le cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré, bon, magnifique. Une autre œuvre de Rameau, Entrée de Poligny, que vous avez également arrangée.
Oui.
Pour le chœur. Et puis après, toutes vos pièces, donc l'Agnus Dei, on vient d'entendre, Et Incarnatus Est, Ut Queant Laxis, Calme des nuits de Saint-Saëns, toujours des titres assez poétiques. Il y a un Crucifixus de vous-même aussi.
Oui, ça sera la création donc, du concert.
Et puis, nous aurons les fameuses forêts paisibles, les sauvages, vous savez, de Rameau, Serge, pour soliste, chœur et orgue. Alors, c'est pas vous qui avez fait l'arrangement cette fois-ci ?
Non. Et donc, effectivement, il y a deux arrangements donc, des barricades mystérieuses que j'apprécie particulièrement, que je ne me lasse pas de jouer. Hein.
Je vous comprends.
C'est vraiment un tube du répertoire pour clavecin. Et cela fait quelques années, en fait, que j'avais l'idée d'en faire un arrangement. Et ce sont les idées que l'on a comme ça dans un coin de la tête pendant des années. Et il y a un moment où on se dit, bon, je vais le faire. Voilà, on passe à l'acte. Donc, je l'ai fait. Et il y aura donc aussi l'arrangement d'une autre pièce hein, de Rameau qui est très connue. Une pièce qui est extraite des Boréades, qui est régulièrement jouée, notamment par les musiciens du Louvre.
Hein. Oui.
Sous la de Mark Minkowski, donc la pièce originelle est orchestrale et je l'ai arrangée donc pour chœur mixte également.
Et puis donc il y aura deux pièces pour orgue seul. On va garder la surprise peut-être, à moins que vous connaissiez les titres.
Je les connais, mais oui, je pense que l'on va garder la surprise.
On va garder la surprise. Donc beaucoup de très belles œuvres dans ce programme magnifique. Hein. Et pour écouter un nouvel extrait, je vous propose cet enregistrement du Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré, une version de la Maîtrise de Toulouse avec Michel Bouvard à l'orgue. Le cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré, enregistré par la maîtrise de Toulouse, dirigée par Marc Hopstadt et accompagné par Michel Bouvard à l'orgue Cavaillé-Coll de Saint-Cernin, c'est donc l'une des nombreuses œuvres au programme du concert que donne l'ensemble William Horaire ce samedi 5 avril à 20h30 à l'église Saint-Pierre des Chartreux. Et la veille, à la Halle au Grain, il y a un concert de l'Orchestre National du Capitole. Je vous l'ai déjà annoncé en première partie d'émission. Serge, nous allons y retrouver un chef d'orchestre et pianiste que l'on connaît bien désormais à Toulouse, le russe Maxime Emelianichev.
Ah oui, oui, un grand musicien donc, qui est pianiste, pianofortiste, claveciniste et qui joue même du cornet à bouquin. Enfin, c'est incroyable. Un grand musicien qui est en même temps chef principal de l'orchestre de chambre d'Écosse et qui a été nommé chef principal invité de l'orchestre de la radio suédoise à partir de la saison 2025-2026. Et puis, il dirige l'ensemble Il Pomodoro depuis 2013. Donc, il donne un programme particulier qui s'ouvre avec une création à Toulouse d'une compositrice britannique d'origine russe, née en 1974, qui s'appelle Elena Lang. Et l'œuvre, c'est Figaro Gets a Divorce, une suite d'orchestre à partir de son propre opéra qui prend la suite en quelque sorte du Barbier de Séville et du Mariage de Figaro de Beaumarchais. Donc on aura cette œuvre comme création, comme découverte. Et puis ensuite, alors ça c'est une nouveauté, le Concerto pour piano numéro 23 de Mozart, c'est pas ça qui est la nouveauté, c'est qu'il sera à la fois dirigé et joué au piano par le chef, Maxime Emelianichev. On aura droit à, vraiment à une interprétation particulière hein, du concerto dont le mouvement central l'Andante est l'un des mouvements lents les plus célèbres de toute l'histoire de la musique, on peut le dire. Et puis en dernière œuvre, ce sera la symphonie numéro 5, dite Réformation en ré mineur, de Félix Mendelssohn, qui est donc une sorte de profession de foi d'un compositeur très attachant du 19e, il faut le dire. Hein. C'est la cinquième et dernière symphonie, mais composée par un tout jeune compositeur, puisqu'il avait à peu près 20 ans à l'époque où il l'a composée. Et donc c'est pour célébrer le tricentenaire de la confession d'Augsbourg, qui est fêté par les protestants allemands en 1830. Donc voilà ce programme à trois volets, dirigé par Maxime Emelianichev.
Très beau programme, nous allons écouter Maxime Emelianichev dans un extrait du célèbre deuxième mouvement Adagio, celui qu'évoquait tout à l'heure Serge Chosy. L'Adagio du concerto numéro 23 de Mozart, je précise qu'il joue ici du pianoforte, comme vous allez pouvoir l'entendre dans une version où il est accompagné par l'ensemble Il Pomodoro. Thank you. Le deuxième mouvement d'adagio du concerto pour piano numéro 23 de Mozart avec Maxime Emelianichev au pianoforte accompagné par l'ensemble Il Pomodoro. Le pianiste et chef russe se produit donc avec l'Orchestre National du Capitole dans cette même œuvre ce vendredi 4 avril à 20h à la Halle au Grain. L'achat et la réservation des places sont à faire sur le site www.onct.toulouse.fr. Avant de conclure cette émission, je veux signaler deux autres concerts ayant lieu le week-end prochain à la Chapelle des Carmélites de Toulouse. Deux concerts de la saison sur piano historique lancés récemment par François Henry. Samedi 5 avril à 19h, le pianiste Jérôme Grandjean propose un programme Schumann-Brahms, les trois intermédiaires opus 117 et Liszt, la vallée d'Obermann, extraite des allées de pèlerinage. Le lendemain, dimanche 6 avril et toujours à 19h, le baryton basse Adrien Fournaison, accompagné par la pianiste Anne Le Bozec, chante des leaders de Schubert et Brahms. Pour réserver vos places, il faut envoyer un mail à l'adresse pianomuse@yahoo.fr, pianomuse avec un S à muse. La veille, le jeudi 3 avril, à 12h30, au Théâtre du Capitole, il y a un midi du Capitole donné par les lauréats 2023 des voix nouvelles, à savoir la soprano Héloïse Poulet, la mezzo-soprano Lotte Verstein et le ténor Léo Vermeau des Roches. Ils vont chanter un programme d'air d'opéra célèbre. Billetterie en ligne sur le site www.opera.toulouse.fr. Et puis je rappelle enfin le concert de l'ensemble William Maurer, placé sous la direction de Mathieu Pointeau, samedi 5 avril à 20h30 à l'église Saint-Pierre des Chartreux. Il va y être donné un très bon programme où se mêle le baroque français de Rameau et Couperin à des œuvres de Fauré, Saint-Saëns et William Maurer lui-même. Je remercie Serge Chosy de m'avoir assisté une nouvelle fois dans l'animation de ce numéro. Merci également à William Maurer, notre invité d'honneur, et à Christophe Aubry, le réalisateur de cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous, chers auditeurs, de votre fidélité à l'écoute de Mélomanie. Excellente semaine musicale, vous avez encore de quoi passer de très beaux moments.